I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, ce nouveau podcast du site Genre Actu, consacré notamment au processus draft et notamment à la présentation des différents postes dans l'optique de l'événement prévu du côté de Kansas City le 27 avril prochain. En tout cas, à partir du 27 avril prochain, on dresse les derniers postes donc en défense et en attaque qui nous intéressent, avec aujourd'hui un focus tout particulier sur le poste de linebacker. Certainement pas l'un des postes les plus fournis, on ne va pas vraiment vous vendre du rêve au cours de cette émission. Maintenant, sûrement un poste où il y a malgré tout des bonnes affaires, des projets intéressants, et ce sera notamment l'axe principal de cette émission. On en profite pour rappeler que cette émission est enregistrée avant le début de la Free Agency. C'est important, encore une fois, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vous paraîtront un peu bizarres dans ce qu'on va dire, ou pas d'ailleurs, mais c'est important aussi de contextualiser un petit peu ce qui sera dit dans cette émission et dans la prochaine que vous retrouverez consacrée aux receveurs. Présentation et décor étant faites, je m'en vais saluer mon camarade du jour, Nitinia Simon, qui est avec moi. Salut Niti.
Salut Greg, bonjour à tous.
Un plaisir de te retrouver. On avait fait ensemble de mémoire. Alors attends, parce que mémoire me joue des défauts. Lineman intérieur offensif. Et on Exactement. Avait fait également les safety. On va s'intéresser aujourd'hui tous les deux à la classe de linebacker. Je le disais, pas forcément beaucoup de rêves. En tout cas, ce n'est pas l'occasion du scouting combine qui s'est déroulé il y a quelques jours du côté d'Indianapolis, que les linebackers ont fait grimper sensiblement leur cote, même si certains l'ont vu sur la classe au niveau du combine, sur la classe de linebacker, on met à peu près tout et n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on mélange les edges et les linebackers classiques. Donc c'est vrai que voilà, il y a des outside linebackers, des edge rushers attendus en NFL qui ont brillé. C'est pas forcément le cas de tous les linebackers un petit peu plus classiques qu'on va retrouver un petit peu en tant que middle linebacker ou weak side, comme on les appelle, linebacker côté faible, qui sont souvent amenés à avoir beaucoup, beaucoup de tâches dans la NFL moderne. On va commencer, si tu le veux bien, Niti, on va suivre le procédé habituel. Trois chapeaux pour déterminer un petit peu le niveau d'attente, de hype un petit peu entre les différents prospects. On va commencer par le chapeau 1, avec sans doute celui qui fait office de principal favori pour être le linebacker sélectionné au premier tour. On va parler notamment de Trenton Simpson, linebacker de Clemson. J'ai juste rappelé très rapidement ses stats, 73 plaquages au cours de cette saison 2022. On a également 2,5 sacs et 2 fumbles forcés. Qu'est-ce qui en fait, selon toi, Niti, un prospect adéquat pour être sélectionné dès le jeudi soir?
De ce qu'on a vu, en tout cas de la saison 2022, et de ce qu'on a vu dans ses saisons universitaires, au poste de linebacker, c'est probablement le meilleur athlète de la QV, déjà, et qui sera probablement plus utile dans un schéma en 43, donc plus en weak side linebacker plutôt que dans un schéma en 34 qui était pourtant le schéma de Clemson, hein, où il a été souvent utilisé en outside linebacker. Et malgré tout, dans un système défensif où Brent Venable, hein, qui était le coordinateur défensif de Clemson, est parti à Oklahoma, on a vu un peu qu'il était en difficulté sur cette saison 2022 à Clemson, malgré quelques flashs où il a montré de très bonnes choses, notamment sur la qualité de plaquage. Il a aussi montré de très mauvaises choses. Il a notamment été suspendu d'un match pour targeting. Targeting, c'est le fait de, de mettre son casque sur le casque d'un autre
Mise
joueur.
en danger de
Voilà.
l'attaquant adverse, on va dire, pour synthétiser
Exactement.
un peu.
Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a de très bons instincts, qui a de très bonnes capacités en couverture, même si ce n'est pas son point fort. Souvent aligné dans le box, hein, effectivement, hein, donc sur cette saison en 2022. Malgré ses capacités athlétiques et sa capacité à changer de direction, à être très fluide, il a du mal, par exemple, à se débarrasser des blocs. C'est pour ça qu'en strong side linebacker, il aura probablement beaucoup de mal, mais faudra qu'il travaille dessus parce que ça va être un très bon linebacker en NFL, clairement. Il sera peut-être titulaire dès la semaine 1, mais sinon, s'il ne travaille pas et s'il ne conserve pas la même éthique de travail qu'il avait jusque-là à Clemson, il ne deviendra probablement qu'un joueur de rotation. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'au premier tour, c'est peut-être le principal candidat qu'on a dans cette position.
Tout à fait. Tu as globalement tout dit, à mon sens. C'est vrai qu'en l'occurrence, ce qui en fait un joueur, on va dire, plus ou moins d'exception dans cette classe de linebacker, c'est qu'en effet, il rejoint beaucoup plus le prototype de linebacker qu'on a l'habitude de retrouver chez les pros. En effet, que ce soit niveau taille, niveau poids, même si tu le disais, voilà, il y a peut-être un léger déficit de puissance par moment, mais en tout cas, il y a un profil athlétique, il y a une vitesse, et ça, il l'a montré sur le 40 yards. Je crois que c'est un des tout meilleurs temps sur le poste de linebacker. Je crois qu'il n'y a que Owen Papo qui fait un meilleur temps que lui, en
Oui, c'est
l'occurrence,
ça.
sur le
C'est
40
le
yards du
deuxième, là.
combine. Donc voilà, on voit que c'est un joueur qui a une vraie vivacité, qui a globalement, je trouve, un QI foot assez développé. Tu l'as dit encore une fois, il s'est blitzé. On critique un petit peu l'aspect de couverture. Alors, c'est vrai qu'il a été un petit peu, et ça tu disais, c'était aussi un petit peu conditionné, je trouve, à mon sens, au départ, notamment de son coordinateur défensif. Il a été utilisé dans différents contextes au sein de la défense de Clemson. Alors, ça n'a pas forcément mis en valeur cette couverture-là, en effet. Mais très clairement, si on compare par exemple aux autres linebackers dont on va parler, en termes de pourcentage sur la couverture, c'est un de ceux qui concède le moins de réceptions. Donc voilà, je parle vraiment en termes de pourcentage, hein,
Non,
voilà.
effectivement, ce n'est pas le plus faible, hein. Loin de là. C'est pas le pire, effectivement, en couverture, parce que c'est vrai que quand on regarde les autres profils, là, il y a pire.
Tout à fait.
Mais
Dans une
oui,
conférence,
c'est un bon choix.
juste pour préciser, dans une conférence en plus, on a vu que les quarterbacks ces dernières années étaient quand même souvent mis à profit, hein. Kenny Pickett, par exemple, il jouait. On a notamment un gros prospect, Drake May, qui devrait sortir l'année prochaine en 2024.
Ouais,
Donc
Jordan
voilà,
Travis.
exactement. Il y a beaucoup de quarterbacks qui étaient capables justement de faire mouche. Donc de voir que malgré cette utilisation un petit peu inhabituelle, entre guillemets, bah, Trenton Simpson a aussi essayé de mettre un peu d'eau dans son vin et essayé de surnager un petit peu sur cette position de linebacker en couverture, j'entends en tout cas. À mon sens, ça me fait dire que ce n'est pas forcément un point faible rédhibitoire, mais un point d'amélioration qui n'aurait pas forcément de mal, à mon sens, d'être développé par le coaching staff qui va l'avoir.
C'est plutôt ça en fait, c'est améliorer les points faibles que j'ai dit effectivement dans ma description parce que finalement il a vraiment le potentiel. Il est jeune, hein, il a 21 ans, hein, c'est un junior. Donc l'équipe NFL qu'il aura devra bien le développer et surtout l'utiliser dans des schémas défensifs où il sera vraiment très bien utilisé. Donc moi en l'occurrence, je considère qu'il est meilleur dans une 43 que dans une 34. Même si dans une 34, il peut faire le travail, mais en tant que middle linebacker. Si il utilise un outside linebacker, ses qualités ne sont vraiment pas utilisées, même s'il s'est blitzé.
Oui, je te rejoins. Dans une 43, il fera largement le boulot. Même dans une 42, avec
Ouais, c'est
vraiment
ça,
un
en
rôle
plus.
massif du backfield, justement, pour peut-être moins l'exposer dans ce domaine-là. Enfin, voilà, je pense que vraiment, avec un front 4, ça peut être une position assez intéressante
C'est ça.
qui peut exploiter à merveille, en l'occurrence. On passe au deuxième prospect. Alors, autant Trenton Simpson rentre dans les standards NFL, autant le linebacker dont on va parler maintenant. C'est sans doute l'inside linebacker, on va dire, version 2022 de College Football, le plus atypique de ce plateau, puisqu'on va parler de Drew Sanders, linebacker d'Alabama, qui a une certaine particularité. J'ai dit d'Alabama, il joue à Arkansas, lapsus révélateur, puisqu'en l'occurrence, il a été recruté en universitaire par Alabama. C'était une grosse, grosse recrue d'ailleurs, en provenance
Et
du
ouais,
Texas
5 étoiles.
pour le Crimson Tide, tout à fait. C'est 103 plaquages. Alors, j'ai retrouvé ses stats cette saison. C'est 103 plaquages, 9 sacs et demi, 3 fumbles forcés. Pour Drew Sanders, profil très atypique, très grand, assez longiligne hein, en l'occurrence, mais qui a vraiment un profil athlétique assez détonnant. Edge rusher de formation, donc je le disais, du côté d'Alabama, et qui a dû un petit peu se reconditionner sur l'intérieur du deuxième rideau du côté d'Arkansas, avec du coup des bonnes et des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'en effet, il y a ce flair, cette capacité à blitzer notamment, qui a vraiment fait des merveilles du côté de Fayetteville, là où se trouve le campus donc des Razorbacks. Par contre, forcément, le bémol, c'est Nitti qui a encore beaucoup, beaucoup de choses en apprentissage, notamment manifestement une technique de plaquage qui est tout sauf perfectionnée de sa part.
Ah bah, la technique de plaquage, c'est soit il est trop agressif, soit il le manque. C'est quasi certain. Il a aussi une technique, un peu comme Trenton Simpson pour la déconstruction des blocs, qui est un peu moyenne. Même si c'est un joueur qui est long, il a quand même une certaine vitesse, il a une bonne endurance. Leader de cette défense hein, de Arkansas, hein, avec une incroyable production, tu l'as dit, un 9,5 sacs. Et aussi 18 plaquages pour perte. Hein. Donc, très, très, très bon joueur. Un certain potentiel, donc, hein, qu'on peut trouver chez ce joueur. Mais justement, c'est peut-être là aussi où est le point faible, c'est qu'il a peut-être bien produit en 2022, mais est-ce qu'en NFL, il va pouvoir produire? Ça, c'est toute la question qu'on va pouvoir se poser. Moi, je le vois effectivement comme middle linebacker dans tout schéma, que ce soit 43 ou 34, voire en 42-5. Mais sinon, c'est vrai que la technique de plaquage laisse à désirer.
Ouais, moi, ce qui m'intrigue un petit peu avec lui, alors tu le disais, il y a un côté vraiment, ça passe ou ça casse sur des actions. C'est-à-dire que tu sens qu'il ne va pas hésiter à y aller, il ne va pas hésiter à aller au charbon pour transpercer la poche. Mais voilà, il peut complètement manquer sa lecture et du coup bah, concéder un big play, comme il peut bah, avoir des plaquages pour perte en pagaille. Je le disais, c'est un profil très atypique parce qu'encore une fois, j'ai du mal vraiment à me mettre d'accord sur son positionnement. Je trouve qu'il a un gabarit qui n'est pas sans rappeler celui, par exemple, je prends souvent cette comparaison, mais là, en l'occurrence, je trouve qu'elle est assez à propos, même si, en l'occurrence, Leighton Van Der Esch était un bien meilleur plaqueur, mais avait aussi beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là. Je pense qu'on est plus sur ce profil physique-là, avec peut-être un peu plus long, un peu plus longiligne quand même de la part de Sanders, entendons-nous bien. Mais j'ai quand même du mal à me demander si ça va pas être un... On va dire, si ça ne peut pas être un strong side 34 à l'échelon supérieur, c'est. En fait, il y a un côté où j'ai l'impression que c'est un espèce de mix dans l'utilisation qu'il peut avoir en NFL entre Micah Parsons et Baron Browning. C'est-à-dire ce côté où ça peut être où il a les aptitudes d'un linebacker, mais où il y a cette aptitude également à être un pass rusher également occasionnel, ce qui peut lui permettre éventuellement de brouiller les cartes en fonction de son positionnement. C'est plus là comme ça que je le considère. Après, je te rejoins. Je pense que voilà, globalement, on peut éventuellement le mettre sur l'intérieur de la ligne, mais il ne sera pas titulaire tout de suite.
Non, il ne sera pas titulaire tout de suite. Et justement, tu parlais d'un joueur, c'est ma comparaison justement pour lui, c'est bien Baron Browning. Justement. Parce que Baron Browning, quand il est arrivé à Denver, on se disait, oui, mais il va jouer où?
Ben, c'est ça,
Middle
c'est bouché sur
linebacker.
l'intérieur.
Ouais, c'est ça. Exactement. C'est difficile à l'évaluer, effectivement, Drew Sanders, parce qu'il a fait une grosse saison 2022, mais en fait, on se dit que est-ce qu'en NFL, il va pouvoir produire ce qu'il a fait en université, en tout cas dans sa seule année à Arkansas. Il n'a pas réussi à Alabama parce qu'il a été, comme tu l'as dit, cantonné à un poste d'edge rusher. Mais est-ce qu'il avait vraiment le niveau en tant que middle linebacker à Alabama? Ben, de toute façon, là, je
C'est ça.
spoil peut-être un peu, mais,
C'est
mais voilà.
en fait c'est ça aussi le point d'interrogation, c'est que ce sera peut-être pas partagé par tout le monde, mais je pars du principe que la science du plaquage, on va dire que la manière de finir les actions et de plaquer, c'est quelque chose qui peut-être plus s'apprendre qu'autre chose. Surtout quand on a un joueur qui a un profil athlétique voilà, quand même assez certain, en tout cas qui est en position de réussir à finir les actions. Mais c'est vrai que voilà, après, il va falloir être un minimum patient et c'est aussi surtout ce qui conditionne le fait qu'il atterrisse au premier tour. C'est qu'à mon sens, oui, il y a un côté prototype, spécimen, voilà, hyper rare qu'on va retrouver chez Drew Sanders. Maintenant, voilà, c'est où une équipe est vraiment amoureuse et va tenter le coup en fin de premier tour, ce qui peut arriver. Hein. On a déjà vu d'autres cas. Je parlais en off des Seahawks qui ont pris Jordan Brooks alors que personne ne le voyait, par exemple. Ça peut arriver, ce genre d'amourette. Mais c'est vrai que ça peut aussi être plutôt un profil, pardon, en début de deuxième tour où on se dit, bon, bah voilà, on va laisser un tout petit peu plus de temps, à peut-être prioriser un autre poste. Et on va éventuellement voir ce qu'on peut en obtenir et le titulariser peut-être genre lors de sa fin de saison rookie, par exemple, en fonction du positionnement qu'on aura jugé adéquat, quoi. C'est plus dans cette idée-là. On passe au troisième profil à présent et on va parler, on peut le dire, je pense, du chouchou de Victor Roulier, puisqu'on va parler du linebacker d'Iowa, Jack Campbell, qui a enregistré cette saison 125 plaquages, un sac et un fumble forcé. Alors, je n'ai pas toujours toutes les stats sous les yeux, je m'en excuse. Hein, tu en as peut-être d'autres pour développer de ton côté, Nitti. Mais c'est vrai que pour le coup, Jack Campbell, on en parlait justement lors de la dernière émission consacrée au débrief du Combine avec Victor. C'est un profil de pur middle linebacker, mais on est sur du middle linebacker vraiment moderne en l'occurrence.
Je vais d'abord compléter les statistiques. Alors déjà, premier message pour Victor. J'espère que tu ne vas pas me spammer après ce que je vais dire sur Jack Campbell. Mais j'espère que je ferai la meilleure description possible de ton chouchou. Voilà. 10 plaquages pour perte hein, pour Jack Campbell hein, cette saison en 2022. Il aurait pu se présenter hein, l'année dernière. Hein. On en a parlé en plus lors d'un précédent podcast, même la saison dernière de Jack Campbell, mais il a retiré son nom pour être de nouveau le leader de la défense d'Iowa. Et justement, leader, c'est vraiment ce qui le caractérise. C'est un patron, Jack Campbell. Il me fait un peu penser, dans sa manière de mener le leadership, à Luke Kuechly, le linebacker de Carolina, des Panthers, donc légende des Panthers. Donc, meilleur linebacker cette saison en 2022, meilleur joueur défensif hein, de la conférence Big Ten également. Hein, il est nommé dans les équipes types de l'année en 2021, également en 2022. Donc, c'est un joueur, quand une équipe NFL va le choisir, c'est un joueur sûr. Il a pas loupé beaucoup de matchs. Comme tu as dit, un gros plaqueur. Quasiment voilà, 120 plaquages donc, cette année, encore plus de 100 en 2021. Et c'est un joueur qui sera, comme tu l'as dit, middle linebacker en NFL. Ce ne sera jamais un pass rusher. Ce ne sera jamais un joueur qui va être très bon dans une situation de passe, dans une situation de passe adverse. Mais en tout cas, contre la course, ça va être un joueur sur lequel tu peux compter. Voilà. Même s'il n'a pas non plus une grande technique pour se défaire des blocs, en couverture, ça peut être un bon joueur aussi. Il a quand même fait deux interceptions, tout de même si c'est plus des interceptions sur des passes déviées où il était là au bon moment, on va dire. Mais c'est un joueur qui sera un leader de vestiaire, mais jamais un joueur qui, on va dire, sera un vrai playmaker, quoi. C'est pas vraiment un joueur qui va te faire une interception, te faire un sac, un fumble forcé seulement également. C'est parce qu'en fait, il a des capacités athlétiques qui sont un peu limitées par rapport aux joueurs qu'on a évoqués précédemment. Mais ça reste un très bon joueur, un monstre physique tout de même, 1m98, 113 kilos. Donc ça va être un bon joueur en NFL, quoi qu'il arrive.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu la même problématique que Sanders, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, pour le coup, peut être excellent dans un domaine, mais c'est peut-être un domaine qui, du coup, va l'enfermer dans la vision globale des équipes NFL et qui, forcément, va peut-être limiter un petit peu son utilisation. C'est vrai qu'on est sur un run stopper pur, tu le disais, un gros leader de vestiaire, mais un joueur dont on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on peut en faire sur trois tentatives. En tout cas, sur l'aspect pass rush, tu le disais. Il y a peut-être clairement un dynamisme qui va lui manquer, voilà, et peut-être du jus, notamment au moment de se défaire des blocs, hein, même si c'est un gabarit quand même assez dissuasif, Jack Campbell. En tout cas, il y a peut-être cette alliance de vitesse et de puissance qui peut lui manquer sur ce genre de séquence. Et sur la couverture, en effet, tout n'est pas déconnant, parce qu'il y a quand même une taille, en effet, où il peut rendre la réplique, on va dire, au tight end adverse, par exemple, sur ce genre de situation de jeu. Mais c'est vrai que sa mobilité n'est pas non plus ultra intéressante et risque de vraiment l'exposer dans ce genre de situation. Donc c'est ça aussi qui conditionne le fait d'en faire un premier tour. Pour moi, j'ai du mal à le voir plus bas qu'un début de deuxième tour, parce que je pense qu'il y a une équipe qui, dans le rôle qu'elle veut lui donner, va se jeter sur lui. Mais c'est vrai que ça limite un petit peu le. Voilà, on reparle encore de ce fameux plafond. Qu'est-ce qu'on peut concrètement lui demander à long terme en NFL? Est-ce qu'on peut lui demander plus que ce qu'il montre déjà du côté d'Iowa. Pour l'instant, en tout cas, aux yeux des franchises, rien n'est moins sûr, mais on peut encore avoir des surprises d'ici les prochains mois.
Bah en tout cas, on sait ce qu'on a avec un profil comme ça. Ça,
Tout à
c'est au
fait.
moins, t'es sûr. Parce que les deux premiers joueurs qu'on a évoqués, on ne sait pas trop. Là, avec Jack Campbell, tu es sûr d'avoir quelqu'un sur le run-stop qui va être très performant. Mais tu sais que dans le pass rush, tu sais qu'il va être limité. Donc, voilà.
Tout à fait. On passe au deuxième chapeau à présent et on va commencer par parler du linebacker de Tulane, Dorian Williams, joueur dont la cote ne cesse de grimper semaine après semaine. Hein. C'était notamment lié à la belle saison du Green Wave en universitaire. Hein. Tulane qui avait notamment damé le pion à USC dans un des bowls les plus prestigieux de la saison universitaire. Et en l'occurrence, Dorian Williams qui a joué un grand, grand, grand rôle. Alors, on avait déjà vu ces derniers mois notamment un profil athlétique assez intéressant. Là aussi, ce n'est pas forcément le plus impressionnant en termes de gabarit, mais il y a quand même un certain coffre. Je dirais qu'il y a un savant mélange peut-être de vitesse et de physique du côté de Dorian Williams. Alors autant on parlait tout à l'heure, Niti, de profil qui était vraiment spécialisé dans un domaine. Là, on a l'impression qu'il sait faire beaucoup de choses. C'est peut-être ça. On va dire son rendement préférentiel qui est peut-être à déterminer aujourd'hui pour savoir concrètement ce qu'on veut peut-être en faire en NFL.
C'est un peu ça, malgré une bonne production, une grosse expérience, on a l'impression qu'il sait, comme tu as dit, sait tout faire. Donc il n'a pas vraiment de point faible, mais il n'a pas non plus un point fort non plus. Alors le point fort, on pourrait le trouver dans le physique, hein, on pourrait le trouver dans l'envergure qu'il a, parce que 131 plaquages hein, quand même hein, cette saison, c'est énorme. Leader de cette défense de Tulane, qui a fait, comme tu as dit, une grosse saison à NCAA en 2022. Donc voilà, un très bon joueur, en tout cas physiquement, une bonne envergure, mais justement, dans les points faibles que j'ai notés, c'est l'équilibre. Il a beaucoup de mal face à des linemen qui vont lui foncer dessus et donc d'essayer de déconstruire les blocs adverses. C'est pas non plus son point fort, c'est un peu le point faible qu'on retrouve dans chacun des linebackers qu'on a décrit jusque-là, j'ai l'impression. Et puis également, il manque peut-être d'instinct, c'est-à-dire que la lecture des jeux offensifs, c'est peut-être pas trop ça, mais c'est des choses qui peuvent s'améliorer, en fait, c'est vraiment ça. Donc il a des points forts qui peuvent être potentiellement des points faibles en NFL, mais là, des points faibles qui peut potentiellement travailler en NFL pour vraiment être très bon. Moi, je le vois bien pareil, middle linebacker dans une 3-4, voire une 4-2, et sinon weak side linebacker.
Ouais, c'est
Si,
ça.
si.
Moi, éventuellement, ce que je voyais, c'était peut-être plus un rôle de Will dans un premier temps, avec justement, comme tu le disais, peut-être ses aptitudes, notamment physiques, à développer, cette science du jeu, peut-être encore un peu plus à perfectionner pour être un Mike vraiment efficace. Mais à mon sens, il a la possibilité pour tenir les deux postes. Après, c'est peut-être plus voilà, un rôle qui lui laissera un peu plus de liberté créative, entre guillemets, et un autre où, quand tu l'installeras à ce niveau-là, tu sauras qu'il a déjà toutes les armes à disposition pour vraiment performer à 100%. Donc, c'est un des rares profils, je trouve, dans la classe de joueurs dont on va parler, qui a cette capacité, justement, aussi, de par les nombreuses qualités qu'il a, d'être un hybride parfait entre un middle, on va dire, traditionnel, même s'il n'y a plus vraiment de middle traditionnel. Aujourd'hui, on demande beaucoup de choses également à un Mike. Mais voilà, entre un middle et un joueur, un linebacker côté faible, un weak side linebacker. On passe au deuxième joueur donc de ce deuxième chapeau. On va parler de Diane Henley, linebacker de Washington State, qui s'est révélé. Alors, ce n'est pas habituel d'avoir des gros défenseurs de Washington State, réputés en tout cas en arrivant en NFL. 106 plaquages, 4 sacs, 3 fumbles forcés pour Diane Henley, qui a été vraiment la tour de contrôle des Cougars et qui lui aussi a un profil quand même assez polyvalent sur le papier.
Ouais, sur le papier, mais aussi dans son histoire, hein, parce que Darian Helley a été receveur à Nevada avant, et ensuite il a fait la transition en défense lors de sa troisième saison, il me semble, à Nevada. Il a été même retournant de coup de pied, d'ailleurs, dans cette université. Donc voilà, je t'apprends peut-être quelque chose, mais il va contribuer en équipe spéciale dès sa première année en NFL. Donc, même si ça fait depuis 2019 qu'il n'a pas retourné un coup de pied. Donc là, pour se perfectionner, je pense qu'en sa première année, il va d'abord être en équipe spéciale. Alors, tu le disais, il vient de Washington State. Washington State, j'avais juste deux joueurs hein, dans le viseur pour la draft 2023. C'était Cameron Ward, le quarterback, donc, et John Kingston, qui était le lineman offensif. Et lui, bah, je ne le connaissais pas avant le début de la saison, je vais être honnête. Et force est de constater que pendant la saison, il m'a tapé dans l'œil lors d'un match, c'était contre Colorado State. Il a réalisé trois sacs sur ce match-là, avec deux fumbles forcés également. Donc, deux sacs qu'on appelle, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, il a enchaîné les bons matchs avec plusieurs matchs à plus de 10 plaquages. Seulement 5 plaquages manqués en 2022, donc c'est énorme. Il est capable de bien blitzer, un premier pas qui est pas trop mal, hein, voire même explosif. Et bon, il a de l'expérience du poste de receveur, mais il a beaucoup de mal en couverture. Mais je pense que ça, c'est un peu comme tous les linebackers qu'on a évoqués jusque-là. Et puis, pareil, son positionnement. Il a un peu à revoir parce que parfois il est aligné dans des schémas défensifs à Washington State que je ne comprenais pas trop. Est-ce qu'il jouait dans une défense en 34 ou est-ce qu'ils ont une défense en 4-2-5 ou en un seul linebacker, qui sait? Mais je ne sais pas trop. Et puis il a un potentiel qui ne se voit peut-être pas puisqu'il est peut-être limité. Il aura 24 ans en septembre. Donc. Il y a beaucoup de questions sur son profil, mais on sait ce qu'on a aussi avec, avec ce joueur-là, c'est-à-dire un joueur explosif et un joueur capable de plaquer. Mais par contre, quelle position qu'il aura en NFL, ça, je ne sais pas.
Oui, c'est ça. C'est un joueur qui est globalement assez discipliné. Tu le disais, qui a un profil athlétique assez intéressant de par son expérience. En termes de plaquage, il y a quand même très très peu de déchets. Hein. Je crois qu'on est à moins de 6% de plaquage manqué durant toute la campagne 2022. Donc voilà, même si sa conférence n'est pas une des plus relevées au pays, il y a quand même de quoi, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même quelques attaques en face. Ils ont croisé quand même quelques beaux joueurs, notamment quelques running backs intéressants. Hein. On pense à un Zach Charbonnet, par exemple, qu'il a dû croiser avec UCLA. Hein. Je sais plus si c'était sur le calendrier, mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de profils. Il a croisé les running backs de Utah. Enfin, voilà, pas mal de programmes très réputés, notamment pour le jeu au sol.
Oui, l'attaque de
On a vu
Washington, même.
qui s'est très très bien incorporé dans cette défense. Lui qui arrivait de Nevada. Alors certes, il connaissait le coordinateur défensif, puisque le coordinateur défensif de Washington State, de Wazoo, comme on l'appelle, venait également de Nevada, mais il s'est montré à la hauteur justement de ce nouveau rôle qu'on lui incombait, de ce rôle de tour de contrôle. Moi, pour moi, je le vois vraiment comme un weak side linebacker quasi sûr en NFL. Après, voilà, on verra ce qu'il est capable d'apporter, mais oui, là aussi, il y a quand même une capacité à toucher un petit peu à tout, qui peut être extrêmement précieux pour l'équipe qui va le drafter. Et comme tu le disais, il y a moyen dans un premier temps d'en faire un, ne serait-ce par exemple qu'un bon gunner ou un joueur comme ça, notamment pour réussir à mettre le grappin sur le joueur adverse de par sa capacité à être vif et surtout agressif et de finir les actions. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. On parle quand même d'un troisième tour, on va dire, à coup sûr, d'Ian Henley, si je m'avance pas trop.
Oui, troisième tour, c'est vraiment vu la saison 2022 qu'il a faite. Il y a sans doute une équipe qui va en tomber amoureux. Et vu que le poste de linebacker maintenant, alors imaginons hein, qu'une équipe qui a déjà de très bons linebackers, lui, on va lui dire seulement de plaquer le coureur ou de plaquer bah, le receveur. Je pense qu'effectivement, l'équipe NFL, s'il se contente juste de ce rôle-là, ça pourrait le faire au troisième tour. Ouais.
On termine ce deuxième chapeau en parlant d'un linebacker d'Alabama, puisqu'on va parler d'Henry Toto. Et oui, il faut bien un linebacker d'Alabama pour chaque draft. Et on va donc parler de l'ancien linebacker de Tennessee, donc qui arrive cette fois-ci du Crimson Tide, hein, qui a donc transféré entre-temps 94 plaquages notamment et 2,5 sacs en 2022 du côté de Tuscaloosa. Ça en dit déjà beaucoup sur le panel d'Henry Toto, qu'on attendait peut-être un peu plus vaste, Niti, je ne sais pas trop ce que tu en penses. C'est un joueur qui s'appuie sur beaucoup de qualités athlétiques, notamment sur des bons changements de direction, d'assez bons instincts, mais qu'à ce gros, gros, gros défaut qu'on ne peut pas avoir chez un linebacker, c'est peut-être cette difficulté, alors, hormis sur le run stop, on va dire, à finir vraiment les actions.
Bah, en fait, Henry Toto, il a un profil que je trouve très mystérieux parce que c'est sûr qu'il sera un middle linebacker en NFL, mais sur quel type de jeu, quel type de schéma on va l'utiliser? Est-ce qu'il sera meilleur dans une 34 ou est-ce qu'il sera meilleur dans une 43? Ça, c'est la question qu'on peut déjà se poser. Il est très intelligent. C'est, comme tu l'as dit, c'est un joueur très intelligent qui repère bien les trous, on va dire, dans la ligne offensive et qui est capable de s'engouffrer dedans. Mais comme tu l'as dit, Son gros point faible, c'est effectivement de finir les actions. 2,5 sacs, c'est pas énorme, je trouve, pour lui, même si ça reste honorable hein, quand même hein, pour un linebacker. Il a fait aussi 9 plaquages pour perte. Donc, effectivement, contre la course, c'est un très bon joueur. Mais il n'a pas des instincts de pass rusher. Hein, même en couverture, il n'a pas vraiment cet instinct, on va dire, primitif sur cet aspect-là. Donc, comme j'ai dit, très mystérieux, meilleur que apparemment Drew Sanders hein, à Alabama, puisqu'il a entraîné le départ de Drew Sanders à Arkansas. Mais lui, il était purement un pur middle linebacker dans le système d'Alabama avec, je ne sais plus, qui était à ses côtés à Alabama, j'ai oublié son nom.
En
Mais en tout cas,
2022?
en 2022 ou en 2021, j'ai oublié son nom au
Bah, je,
deuxième linebacker.
2021, je vais
Ah.
dire une bêtise, donc vas-y, je te
Ah,
laisse
non.
poursuivre.
Bon, tant pis. Mais en tout cas, pardon. Mais en tout cas, une bonne mobilité latérale, mais très athlétique, comme tu l'as dit, mais un profil qui est. Ou dont je ne sais pas vraiment quoi penser finalement.
Ouais, tout à fait. Je te rejoins un peu sur l'idée de l'inside linebacker sur une 34. Je pense que
Ouais,
là
c'est
aussi,
ça.
ça lui permettrait peut-être de pas forcément être le point d'ancrage principal sur l'intérieur du deuxième rideau, mais quand même de réussir à faire mouche sur le run stop, en tout cas d'apporter justement cette énergie et cette science du jeu qu'il possède. Mais ouais, ça va pas être un joueur titularisé tout de suite. Je pense qu'on parlait d'un troisième tour tout à l'heure pour Diane Henley. Je pense que ouais, on est sur du 3-4, peut-être
Ouais,
pour Henry Toto.
peut-être plus quatrième parce que troisième tour, il y
C'est
aura
ça.
probablement
Ça. Tout est une
d'autres très
histoire de
bons joueurs.
3-4.
Voilà, c'est
Schéma
ça,
pour à la
exactement.
draft, tout
Voilà.
est autour du 3-4 pour
Ouais.
Toto.
Pourtant, l'année dernière, il aurait pu se présenter. Il avait une très bonne cote également, hein, mais il a préféré retourner en université pour pouvoir peut-être avoir une meilleure production statistique. Si c'était son objectif, il s'est un peu raté.
Oui, ça aurait pu être largement plus perfectible, on est d'accord. On termine avec le dernier chapeau de cette classe de linebacker. On va commencer par Noah Sewell, linebacker d'Oregon, un des cas les plus polarisants de cette classe de linebacker. On avait parlé avec Victor la dernière fois de Demarvion Overshown, hein, qui avait pas réussi un très très bon combine. On le dit tout de suite, c'est aussi pour ça qu'on l'a retiré un petit peu de ce chapeau de linebacker, parce que malheureusement, il est plus vraiment très très hot dans beaucoup d'esprits, hein, mais ça pourra rester potentiellement une bonne affaire. Un cinquième tour à peu près, comme on avait dit avec Victor. Noah Sewell, en tout cas, voilà, joueur très polarisant, 55 plaquages, un sac et demi en 2022 du côté d'Oregon. On recontextualise Nettie très rapidement. Noah Sewell, c'était une des recrues stars du côté d'Oregon ces dernières années en provenance du lycée, joueur qui a produit notamment lors de ses premiers mois du côté du campus de Eugene. La suite a été beaucoup plus compliquée. Pour lui, alors je crois qu'il y a quelques petits pépins physiques qui doivent traîner par-ci par-là, notamment en 2021. Par contre, c'est vrai que malheureusement, on en parlait un petit peu avec Toto tout à l'heure, on est clairement sur du joueur qui sous-performe et qui a du mal à finir les actions. C'est un peu le gros gros souci qu'on a pu reprocher à Noah Sewell ces derniers mois chez les Ducks.
Alors, tu l'as dit, en 2022, c'est 55 plaquages, mais combien de plaquages ratés? C'est surtout ça, en fait. Il est très irrégulier dans ce domaine, et pour un joueur qui est censé être linebacker, et surtout à Oregon, Oregon avait quand même une bonne paire hein, de linebackers avec Justin Flo et Noah Sewell. Noah Sewell a été en grande difficulté, notamment dès le premier match de la saison contre Georgia, incapable de contenir notamment le running back Kenny McIntosh. Mais sinon, si on parle de pur physique, il faut savoir que Noah Sewell, c'est le frère de Penei Sewell hein, également. Donc voilà pour ceux qui auraient reconnu le nom. Donc déjà, profil physique, il a une bonne taille, il est assez puissant, il est assez dur comme joueur. Comme Toto, il reconnaît bien les blitz pour pouvoir faire le pass rush sur le quarterback, voire sur le running back pour faire le plaquage pour perdre. Mais les changements de direction, le pouvoir d'accélération, on a l'impression qu'en 2022, il a grave régressé par rapport à une année 2021 qui a été très productive de son côté. C'est pour ça que moi, je le voyais comme le linebacker numéro 1, voire numéro 2 aux côtés de Trenton Simpson. Mais il a vraiment déçu. avec Oregon en 2022, en tout cas de ce point de vue-là, contrairement à d'autres joueurs du côté de la défense à Oregon qui ont bien performé, lui a été l'une de mes déceptions.
J'ai un peu le même problème pour lui que j'avais pour Kevin Thibodeau l'année dernière, toute proportion gardée, c'est-à-dire que je trouve que ces dernières années, même avec le changement de coaching staff, je trouve qu'on a demandé énormément de choses aux défenseurs d'Oregon, qui les mettaient pas forcément toujours en valeur. À mon sens, c'est peut-être le cas pour Noah Sewell. Est-ce qu'il a un profil aussi varié que ce qu'on a tenté d'essayer du côté d'Oregon? J'en suis pas sûr. Moi, pour moi, ce sera un middle linebacker classique, capable, tu le disais, éventuellement de blitzer, par exemple, sur des troisièmes ou sur ce genre de séquence-là. Je le disais tout à l'heure également, voilà, le côté science du plaquage, capacité à finir les actions. Je pense que ça peut être malgré tout quelque chose de perfectionnable le concernant. C'est un joueur qui a seulement 20 ans, hein, il me semble.
Oui, il a que 20 ans, c'est un redshirt sophomore.
Voilà. Donc, en l'occurrence, faut pas non plus perdre de vue le fait que. Certes, il y a énormément d'éléments qui sont perfectibles, mais c'est un joueur qui, voilà, qui a peut-être un plafond un peu plus élevé que d'autres joueurs dont on parle dans cette émission. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a cette déception parce que quand on a vu le début, on s'est dit que c'était un linebacker qui allait absolument casser la baraque. Peut-être que malheureusement, les choses faisant, bah, la progression n'a pas été aussi monstrueuse que ça. En effet, tu disais, il y a même eu une certaine forme de régression. Maintenant, c'est à l'équipe qui va le récupérer en fonction de ce qu'elle aura constaté, de vraiment être capable de lui trouver une position idoine et celle qui le mettra le moins en difficulté. À mon sens, ce sera vraiment un rôle de middle linebacker de par justement ce coffre qu'il peut avoir, ce profil assez dissuasif et voilà, et cette vélocité, comme on le disait notamment, cette vivacité. Enfin, je vais me faire engueuler si je dis vélocité.
Cette
Voilà,
vivacité, ouais,
cette
effectivement.
vivacité, en effet, cette capacité notamment à pouvoir vraiment faire mouche, notamment au moment de rusher le quarterback. On sait que ça peut être quelque chose d'assez important aujourd'hui en NFL. Mais voilà, je pense qu'on est à peu près comme du Toto, aux alentours du 3-4, en fonction on va dire, de l'espoir qu'on va avoir. À quel point on y croit, voilà, ça peut être un troisième tour si vraiment on a des bonnes aspirations concernant un quatrième si vraiment on considère que le projet est un peu plus à moyen long terme.
Bon, quatrième, ça serait dur, je trouve. Il a
Choix
beau potentiel, quand même.
compensatoire.
Hein. Ouais, voilà.
J'aime
Choix
bien ces choix-là.
compensatoire, on va dire. Ouais, non, ça... Mais ça serait dur, quatrième tour pour lui. Hein. Je pense qu'il sort pas des 3 premiers tours. Au moins troisième.
Ben, c'est ce qu'on lui
Mais,
souhaite. Un
ouais.
joueur qui pourrait s'inviter dans les 3 premiers tours, c'est Owen Papo, linebacker d'Auburn, un des joueurs, on en parlait lors du dernier débrief combine, qui a crevé l'écran, notamment au niveau de la classe de linebacker, hein, avec entre autres, encore une fois, on ne va pas tout résumer à ça, mais un bon 40 yards, notamment, et le meilleur temps de la classe de linebacker, en tout cas pour ceux qui l'ont couru. 92 plaquages, pardon, 2 fumbles forcés, 2 sacs et demi pour Owen Papo en 2022 du côté d'Auburn, dans une saison très compliquée globalement pour les Tigers. Alors on l'a dit, profil athlétique indéniable. Là aussi, lui aussi, c'était une grosse recrue quand il est arrivé du côté d'Auburn il y a 3 saisons de cela, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Qu'est-ce qui peut, selon toi, également faire d'Owen Papo un profil qui va continuer de grimper dans les différents boards des franchises NFL?
Comme tu l'as dit, alors il y a 3 saisons, mais ça reste un senior tout de même, hein, Owen Papo. Mais il a un bon potentiel. Il a peut-être la meilleure combinaison donc athlète et physique de la QV. Comme tu l'as dit, le combine a révélé ses bonnes qualités athlétiques que j'avais déjà bien entrevues hein, dans certains matchs NCAA que Auburn a fait du côté de la défense, notamment avec Derrick Hall et Colby Wooden. Ils ont été un bon trio pour pouvoir remplir les stats, j'ai envie de dire, défensifs. Un gros défaut en 2021, c'est le plaquage, qu'il a bien corrigé en 2022. Seulement 7 plaquages loupés. En 2021, il faut dire que sa saison était hyper irrégulière. Il avait loupé la moitié de la saison. Mais en 2022, il est donc retourné à l'université et il a réussi à monter sa cote. Et la combine n'a fait que confirmer que finalement, sa saison en 2022 n'était pas usurpée, on va dire ça. Voilà, il ne faudra pas lui demander à Owen Papo d'être un pur pass rusher. Hein. Il n'a
Ah non.
pas vraiment, vraiment d'instinct. Il a un premier pas qui. Ouais.
8 pressions en 2022. C'est le plus mauvais chiffre de tous les joueurs dont on parle. Donc voilà, alors certes,
Ah,
tu le
c'est
disais,
clair.
il y avait un peu de viande sur la ligne défensive pour pouvoir faire le boulot, dont le français Jeffrey Mbah, hein, qui on rappelle joue toujours à Auburn et dont on espère des bonnes choses dans les mois à venir du côté de l'Alabama. Mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est clairement pas le joueur qui s'est le plus distingué dans cette classe, dans ce registre-là. Donc ça risque d'effrayer deux, trois équipes malgré ce qu'il a montré à Indianapolis.
Voilà, exactement. On va pas lui demander non plus de blitzer, hein, parce que il n'a pas assez d'instinct. Il a un premier pas qui est peut-être le moins bon de la QV. Donc voilà. Et puis, je le disais, pour tous les profils, c'est aussi le cas. Sa technique pour se défaire des blocs est moyenne également. Mais ça va être un bon joueur en NFL car en termes de mental, compétitivité, il est bien dans l'humeur de la NFL. Mais voilà, se relever après une saison 2021 qui a été bien tronquée, je pense que sa qualité mentale fera qu'il sera un très bon joueur en NFL pour une équipe qui a besoin d'un joueur qui ne lâche rien.
Ouais, tout à fait. Ouais. Un bon middle linebacker sur une 43 ou un inside linebacker, peut-être avec un peu plus de. Avec un joueur là aussi à ses côtés, peut-être pour avoir un profil peut-être complémentaire en fonction de ce qu'on va lui demander. Mais voilà,
C'est ça.
on voit vraiment le rôle de run stopper pur. C'est quelque chose qui peut lui convenir. Sur la couverture, il peut apporter deux, trois petites choses en fonction de sa vivacité, mais on voit que c'est pas non plus voilà son domaine de prédilection. En tout cas, c'est un domaine qui reste assez perfectible, mais très clairement, voilà, tu le disais, on va pas l'utiliser non plus à toutes les sauces, sur toutes les séquences, en fonction des schémas utilisés. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui sera peut-être plus un, j'allais dire un gadget. C'est un peu rédhibitoire.
Exactement.
Voilà, c'est là aussi où, encore une fois, on reste sur ces profils un peu 3-4 au niveau des tours de draft. C'est-à-dire que, encore une fois, ça peut être un troisième tour par rapport à sa cote qui grimpe et par rapport au fait qu'il a pu faire saliver quelques équipes quant à la potentialité de ce qu'il pouvait offrir. Je ne sais pas si cette phrase est très française, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce ne sera pas coupé au montage, on s'en fout. Mais voilà, mais c'est vrai que si on relativise un tant soit peu, même si certains ont du mal à le faire, les prestations du côté du combine, c'est un début de quatrième tour quasi assuré minimum, je pense, pour Owen Pop.
Oui,
Voilà.
clairement, oui.
Il y a une bonne base sur laquelle s'appuyer pour travailler, que ce soit en défense, dans la rotation ou sur équipe spéciale.
Oui, quand tu disais gadget et donc espion sur le quarterback, effectivement. Donc, c'est peut-être son meilleur rôle, peut-être, hein, Ben Papo,
Bah, en tout cas,
quand
voilà,
ça reste comme ça.
il a montré avec en plus la vitesse. Voilà, pour niveau poursuite, je pense qu'il va être capable de faire largement le boulot selon les équipes qui vont être à affronter, des quarterbacks qui sont de plus en plus mobiles en NFL. Il va être capable de répondre à ce défi physique et athlétique. On termine avec le dernier joueur de ce troisième chapeau, à savoir Ivan Pace, junior linebacker de Cincinnati. Profil, là encore, très atypique, relativement petit. Alors malheureusement, j'ai pas la tête. Je pense qu'il doit faire un bon 1,76 m. On doit
Oui,
être aux alentours du 76-78, je pense, pour Ivan Pace junior.
1,78 m, 100 kilos au moins à peu près, ou moins, je sais plus, mais ouais, 1,78 m.
Mais voilà, en tout cas, c'est un gabarit assez. Enfin, c'est un gabarit forcément un peu moins coté que les autres, hein, puisqu'encore une fois, on reste en NFL, donc forcément, il y a des choses qu'on va peut-être lui demander qui peuvent poser problème. On l'a vu aussi pas mal en difficulté, notamment justement pour répondre aux défis physiques de certaines équipes, et c'est peut-être là, encore une fois, où ça risque de poser problème. Après, on va le dire clairement, Ivan Pace, c'est une boule d'énergie. C'est-à-dire que ce soit du côté de Miami, Ohio, où il a commencé les premières années, ou à Cincinnati en 2022, c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses, notamment de plaquer, de blitzer. Ça peut être vraiment un joueur extrêmement précieux, un linebacker extrêmement précieux, pardonnez-moi, pour justement générer un peu plus de pression si vraiment on est sur une défense agressive et qui recherche notamment des linebackers capables de brouiller les pistes. Je pense qu'un Ivan Pace, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. On ne va pas lui demander de courir, parce que très clairement, ne serait-ce que niveau taille, ce n'est pas forcément quelque chose qui va forcément le mettre en avant. Je lui disais, en plus, pour répondre aux défis physiques et pour renforcer la boîte, ça va être quelque chose d'assez complexe. Donc voilà, on va peut-être être sur du Même le positionnement est un peu compliqué à trouver de mon côté. Qu'est-ce que tu en penses, Devon Space?
C'est un peu comme tous les linebackers, j'ai l'impression, du chapeau 2, du début du chapeau 2 à la fin du chapeau 3. On cherche où on va le mettre, la meilleure position donc, pour ce profil-là. Non, comme tu l'as dit, une boule de flipper, j'ai l'impression, Ivan Pace Jr. Hein, très explosif, hein, très performant sur le blitz, hein, peut-être l'un des joueurs qui... ou dans cette saison 2022 à Cincinnati qui a blitzé le plus, hein, je pense, dans le college football, et une bonne mentalité, un bon esprit de compétiteur, que ce soit Miami, Ohio, comme tu le disais, ou du côté de Cincinnati. Effectivement, la couverture, bon, effectivement, c'est pas encore ça, une envergure bien limitée pour la NFL. Donc, pour anticiper un peu ta question sur le tour où il va être projeté, je pense... Allez, la journée de samedi, entre le 4e et le 7e tour, il sera probablement drafté vu sa belle saison, parce qu'il a fait plus de 120 plaquages cette saison, 3 passes déviées, un fumble français, hein, 4 sacs également. Va peut-être le sauver, parce que sinon, il a vraiment une envergure et un physique qui est assez limité pour la NFL.
Oui, c'est ça. De toute façon, ce sera un joueur très, très apprécié sur équipe spéciale parce qu'on le disait, c'est un joueur qui recule devant rien, entre guillemets, qui n'hésite pas à aller au charbon et qui, en effet, peut au moins contribuer dans ce domaine-là, en tout cas. Après, c'est vrai que, on va pas être totalement défaitiste pour Ivan Pace parce que c'est sûr qu'en effet, par rapport à d'autres linebackers, il n'est pas forcément celui qui est le plus en vue. Il n'a peut-être pas des qualités athlétiques aussi fulgurantes que l'exemple que je vais prendre. Et encore une fois, comparaison n'est pas raison. Mais c'est vrai que voilà, on disait un petit peu pareil, on relativisait aussi un petit peu les prestations d'un Nick Bolton lors de sa sortie de Missouri en college football. Alors certes, on va nous dire il évolue chez les Chiefs, mais ce qui n'était pas non plus dans une défense, en tout cas pas en 2022, une défense où il n'y avait que des joueurs all pro. Hein. Il y en avait un notable, notamment sur le premier rideau, mais il n'y en avait clairement pas partout non plus. Et pourtant, Nick Bolton s'est fait sa place petit à petit. Il a atterri au deuxième tour parce qu'il avait, je pense, des qualités athlétiques peut-être supérieures et peut-être une opposition tout autre, hein, parce que voilà, les saisons de Cincinnati, enfin la saison 2022 de Cincinnati, il n'y a clairement pas que des adversaires, on va dire... reluisant pour mettre en valeur le travail défensif de Page chez les Bearcats. Donc voilà, ça peut être une espèce d'exemple de jurisprudence, on va dire, le cas Nick Bolton. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un Ivan Pace qui peut performer en tant que middle linebacker chez les pros, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le joueur à qui on va pouvoir demander énormément de choses de par ce qu'il a semblé démontrer lors de son processus universitaire, en tout cas lors de ces derniers mois.
Oui, voilà, peut-être le mettre tout d'abord au frais pendant 2 saisons minimum et puis ensuite en faire peut-être un titulaire ou alors dans la rotation dans une équipe NFL dès sa 3e saison si jamais il est drafté par une équipe NFL.
Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de linebacker. Je te remercie Nitina d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours à peine pour parler de ce dernier podcast de position, notamment consacré à l'attaque et au poste de receveur, où là, vous le verrez, il n'y a pas forcément... Il y a peut-être un peu plus de joueurs attendus au premier tour, mais ça va être une classe assez profonde. Il a fallu faire des cuts, je pense qu'on le dira en temps voulu. Il a fallu faire des cuts parce que malgré tout, il y a quelques petites bonnes affaires...
C'était dur, on va dire.
...aux alentours du troisième tour. Voilà. Il y aura sûrement des messages d'insultes, vous savez qu'on adore ça. Donc, voilà, on s'en justifiera, mais voilà. Dernier podcast consacré au receveur dans quelques jours à peine. Et puis, écoutez, d'ici là, restez bien à l'écoute de Touchdown Actu, sur le site notamment touchdownactu.com, sur le Twitter, TD Actu, etc., etc. Voilà, toute l'actualité de la NFL continue sur le site, sur Twitch et sur toutes les plateformes de téléchargement, sur toutes les meilleures plateformes de téléchargement. À très vite sur TDA. Salut à tous.
Salut.